Radio. Gilles Proulx.
Bonjour, mon cher Richard.
Richard Martineau.
Pauvre petit lapin.
La rencontre.
Point à l'heure des cadeaux.
Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil.
Point à la ligne.
C'est très important, ce qu'on dit.
La rencontre Proulx Martineau.
Monsieur Proulx, qu'est-ce que vous pensez de Nancy Bédard?
Madame Bédard qui quitte tout d'un coup comme ça, on donne pas beaucoup de raisons. Mais est-ce que c'est pas relié justement à l'odieux du combat que mènent ces gens de la santé et qui s'imaginent des grands vainqueurs? Ils sont vainqueurs auprès des têtes fêlées, aux têtes des négligentes, il y en a des têtes là-dedans. Mais ça nous donne un mois maintenant pour convaincre du côté du gouvernement. Moi, je pense, Richard, que les deux parties sont perdantes là-dedans. En pleine année électorale, pour le gouvernement Legault, ça ne pourrait pas être plus mal placé. Le syndicat qui s'abaisse à défendre des entêtés, des négligents, perd la face parce qu'il y a quand même 85% des gens qui ont été vaccinés sur les 8 millions, là. Je pense pas qu'il y a des grandes sympathies et des conversations ra-ra-ra dans les tavernes ou enfin les brasseries ce matin. Je ne pense pas. Et encore une fois, il s'agit de savoir pour un syndicat si ça défend la majorité de ses membres ou une minorité d'entêtés. Le gouvernement aussi perd la face, et c'est malheureux, parce qu'il recule devant une minorité. Les maudites minorités qui mènent la majorité, j'en ai d'autres exemples tout à l'heure, dans d'autres sujets. Alors, encore une fois, devant une minorité. Qu'arrivera-t-il maintenant le 15 novembre? Voilà la question, 64 000 $. Ça sera là le dernier moment de démontrer qu'il ne se laissera pas manipuler parce qu'il aura probablement les mains moins liées, on l'espère. Mais il y a surtout, je pense, ce qu'on surveille dans tout ça, Richard, on n'en parle pas, c'est octobre 2022. On est à 11 mois des élections.
Je vais vous lire un extrait d'un texte de Radio-Canada, Gilles. Vendredi, des milliers de travailleurs du réseau de la santé de France feront face à un ultimatum à partir du 15 octobre, comme nous autres. Les soignants devront présenter une preuve de vaccination complète pour pouvoir se présenter au travail et éviter d'être suspendus sans salaire. En France, ils ont tenu leur bout. Demain, c'est le 15 octobre, puis ça tient. Leur ultimatum demain, 15 octobre, si t'es pas vacciné, tu n'entres pas dans un hôpital. Est-ce que c'est normal, Gilles, que pour entrer chez Pierrette Patate à Verdun, que vous connaissez bien, au coin d'Exun et Verdun, j'ai besoin d'avoir mes deux vaccins pour entrer chez Pierrette Patate, mais pour travailler dans un hôpital, j'ai pas besoin d'être vacciné. Ça tue de l'allure.
Et je pense que la France démontre, c'est une république, démontre sa détermination. Mais ici, ils vont toujours t'invoquer, oui, mais les 4 000 qui nous manquent vont empirer, justement, l'efficacité du système. Et il y a l'électoralisme là-dedans. Il y a le mois d'octobre 2022, moi, je pense, c'est ce qui fait qu'ils ont fait plier. Mais les deux, le syndicat a beau crier, rah, 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 on a gagné, c'est pas vrai. 85%, 100% de la population doivent dire, vous autres, les syndicats, vous êtes des maudits manipulateurs. Raison de plus d'avoir un ministre du Travail qui devrait être enjoint par Legault, tu vas me réécrire le Code du Travail. Pour les secteurs publics et parapublics, il y a des maudites limites de manipuler la population et le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est la population, il y a des limites de manipuler, comme vous le faites, secteur public. Là, ce matin, demain, il va y avoir la manifestation des bonnes dames qui s'occupent des sus dans les parcs d'enfants, là, dans les CPE. Oh, c'est rien que ça qu'on entend toujours dans le public et parapublic. Pendant ce temps-là, justement, la dépendance vis-à-vis du public pour le gouvernement qui était un adepte de l'entreprise poids léger, ben, c'est alourdi de 13%. C'est mauditement inquiétant.
En France, ils ont tenu leur bout parce que leur système de santé, j'imagine, est capable de supporter le fait qu'ils vont suspendre certaines personnes. Ici, le système de santé, il tient à un fil. Et c'est ça l'affaire, Gilles. C'est que les gens, là, les travailleurs du système de santé qui voulaient pas se faire vacciner, ils tiennent le gouvernement par les gosses. C'est ça qu'il faut
exactement
dire. Puis ils servent.
Et on ne voit pas les réserves nulle part. En France, ils ont certainement 72 millions. Ils ont des réserves de médecins quelque part, puis d'autres médecins qui pratiquent plus ou moins, qui peuvent appeler en urgence, comme Ronald Reagan avait fait avec les aiguillonneurs de l'aviation, tu te rappelles? Ben, il y avait l'armée en réserve, il a tout sacré ça dehors. Ici, c'est difficile de dire, je vais tout vous sacrer dehors. Je n'ai pas de réserve, je n'ai pas d'effectifs. Encore une fois, comment ça se fait qu'on ramène pas le débat? Personne ne pose cette question-là. Que fait-on des médecins diplômés hors Québec? J'allais aller en première ligne à l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital de Verdun ou l'hôpital de la Chine. J'allais au moins évaluer un bobo, un malaise, une grippe, une fièvre. Vous n'êtes pas des médecins compromettants parce qu'au dire du Collège des médecins, un autre petit pègre, une mafia, vous ne pouvez pas travailler. Alors qu'on pourrait avoir en tout cas quelques centaines, quelques milliers de médecins au moins à rajouter. Mais l'assiette est égoïstement protégée pour ne pas la partager, car un médecin maintenant, un omnipraticien ordinaire, il y a 3 ans, ça faisait 300 000 par année. Ça fait combien, tu penses, aujourd'hui? Ça fait des 700 000 à 800 000. Puis le spécialiste, ça fait 1 million, puis 1 million plus. Alors, on a créé une caste de gens dangereux qui font du chantage.
Il y a un jeune coucou, parlant de chantage, là, il y a un jeune coucou, là, il est contre le passeport vaccinal, il voulait bloquer des ponts, il a été arrêté. S'il avait été un Amérindien, puis qu'il voulait bloquer le pont Mercier, est-ce qu'on l'aurait arrêté? Je vous pose la question.
Je sais pas si ça avait été un Mohawk, on l'aurait arrêté.
Je sais pas si on l'aurait arrêté.
Ici, avait fait ça quand on lit l'histoire de Maurice Duplessis, qu'on dévalue chez la gang de révisionnistes ignares qui connaissent pas, qui sont pas capables de mettre le personnage dans le contexte. Il avait bloqué le pont Mercier lors de l'inauguration. Il venait de reprendre le pouvoir. Il leur avait dit, déposez vos carabines, on va négocier. Ils ont déposé leurs carabines, puis en allant négocier, ils ont rentré dans le panier à salade. C'est ça, un gars qui mène un pays. T'as pas d'affaire à obstruer le bien public. Alors là, dans notre monde où les minorités braillardes mènent la majorité, on voit que monsieur, encore une fois, un bon petit garçon, écoute, il a 22 ans d'existence, d'expérience de vie, il a fait le Vietnam, il n'y a pas de doute, Mathieu Gagnon. Alors, ils vont organiser une gigantesque manifestation qui vise à bloquer le pont de Québec pour les Québécois, le pont Laporte. À Montréal, pourquoi pas le pont Champlain, puis le pont Jacques-Cartier, il a oublié le pont Mercier, il a oublié le pont La Chapelle, ça arrive nord également, mais quand même, toujours ça pour te dire que on est contre le vaccin des autres et le passeport. Oui. Alors Mathieu, 22 ans, il connaît la vie, lui, il a connu ça, la vie, il en a connu de la pluie puis des orages, comprends-tu? Alors, vois-tu dans quelle sorte de maudit monde? La police l'avait menotté, ce gars-là, parce qu'il avait justement incité des gens à des gestes criminels. Là, il va comparaître le 6 janvier 22, c'est loin. Il y a le temps d'organiser d'autres manifestations. Et voilà ce que c'est que de vivre dans un monde de minorité où tu as des gouvernements qui ont pas assez de couilles face à la chienlit.
D'ailleurs, parlant de couilles, est-ce que Denis Coderre en a? On va le savoir, quoi, à 11h, je crois, qu'il y a un point de presse de Denis Coderre. Puis là, les rumeurs, c'est que peut-être qu'il se débarrasserait de son candidat à Verdun, je sais pas, là, celui qui était pogné là, à faire des flips, à s'en mettre plein les poches. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça, c'est intéressant, mais ça va faire la troisième fois qu'il met un malfrat dehors, un gredin, qu'on n'a pas besoin dans le parti. Ça fait que ça décrédibilise justement son parti, qui a tellement fait, lui, pour dire « Je suis le nouveau Denis Coderre ». Il n'y a rien de nouveau. Ce gars-là n'est qu'un arriviste, narcissiste. On n'a qu'à voir sa pléthore de photos partout, ses photos par rapport à son adversaire. Alors là, avec son Antoine Richard de Verdun, un gars de passe-passe, où il n'a pas voulu commenter hier les passe-passe, ben ça fait un strike three. Lui qui aime le baseball, il est rendu à strike three, justement, troisième prise.
Tout à fait. J'ai hâte de voir ça, ce qu'il va annoncer exactement. Mais comme vous rappelez, Gilles, ça va être le troisième qu'il doit mettre de côté. Ça va mal pour lui, là.
Mais comme on s'occupe pas, pis on regarde l'image, pis il est dynamique, hein, pis il a maigri, pis il a fait de la boxe. Canadien, tu gagnais hier soir en passant? Merci. Il a perdu honorablement grâce à ce nouveau Québécois qui était un ancien Québécois, hein, qui a compté le premier but, bravo. Mais quand même, le Canadien a perdu. Ça, c'est bien plus grave que savoir si Connor va perdre ou pas.
Merci beaucoup, Gilles. On se parle demain. Bonne journée.
À demain.